Escapade et vous.
En studio
ou en balade autour d'un micro,
l'émission qui vous donne la parole.
Escapadez-vous.
Les initiatives locales se racontent à l'antenne.
Eh bien, bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette Escapadez-vous, enregistrée depuis nos studios à Saint-Hippolyte-du-Fort. Une fois n'est pas coutume, nous allons parler encore littérature. Je crois que c'est la saison, les mots nous font du bien en ce moment. Il y a quatre personnes avec moi dans le studio aujourd'hui. Il y a Bernard Grelier, qui est berger honoraire et écrivain. Il y a Olivier et Annie, donc Olivier Garot et Annie Dufour, qui sont éditeurs, éditrices autour de Valrog. On vous en dira un peu plus dans quelques instants. Et Manu, qui est avec nous, qui a officié sur les ondes de Radio Escapade de nombreuses années. C'était Sidi Gaston à l'époque et il fait partie maintenant du CA. C'est lui qui a aussi proposé cette petite réunion littéraire autour des micros. Voilà. Donc je disais, on va parler littérature. Nous sommes réunis autour d'un livre, un petit livre, mais un beau livre, qui s'appelle « Au col », trois petits points, « Remembrance en clapasse ». Et c'est donc signé Bernard Grelier qui est avec nous aujourd'hui. C'est édité par Opistographe et Attrapance, c'est le nom de la maison d'édition, donc dirigée par Olivier et Annie, qui a à son actif, et bien pour l'instant, un livre, celui-ci, que j'ai entre les mains. Donc vous allez voir, c'est une jolie petite histoire, un petit écrin là qu'on vous a préparé. Déjà, bonjour à toutes et tous, merci d'être venus.
Merci cher Antoine.
Eh bien, on s'était dit qu'on commencerait, on va avoir des lectures des textes de ce livre par l'auteur lui-même, mais avant ça... Bon, on aurait bien aimé entendre un peu votre rencontre de voisinage, je crois. C'est un livre qui se passe dans les Cévennes, les éditions sont dans les Cévennes. Est-ce qu'on peut savoir un petit peu plus de cette littérature locale ?
Ça a commencé de manière totalement différente. On avait avec Olivier, on s'occupait d'un café associatif à Valrog, et le maire de Valrog nous a demandé de réinventer des veillées parce qu'il avait envie que ses enfants puissent assister à des veillées. Donc on a rencontré Bernard. Le maire nous a dit « Oh, il y a un gars qui écrit des textes, qui est capable de raconter des choses ». Donc nous avons fait un travail d'approche. Ça a pris un tout petit peu de temps. Et un jour, Bernard est venu au café associatif et a lu ce texte au col, que moi j'ai entendu. Olivier lui travaillait derrière le comptoir et Bernard racontera ce qui s'est passé, mais sa conclusion de cette affaire, nous avons publié un livre. Voilà.
Petite rencontre au comptoir à Valrog, donc, qui se termine avec une maison d'édition et un premier roman, j'ai envie de dire.
Exactement.
Un roman, poème, je ne sais pas trop comment on définira ce livre, on peut en parler après. Bernard, cette rencontre alors ?
Oui, quand j'ai fait cette lecture, j'ai senti, de la part d'Annie, que je ne connaissais pas encore, une écoute très particulière. Et à la fin, elle m'a demandé que je lui donne mon texte, parce qu'elle voulait que le faire lire à Olivier. Et elle ne l'avait pas lu, elle l'avait entendu, et elle voulait qu'Olivier le lise sans l'avoir entendu. Et quand ils ont croisé leurs impressions à tous les deux, c'est là que je crois qu'ils ont décidé de faire une maison d'édition.
Exactement.
Comme quoi, c'est facile la vie. Hein. Oui. Faut se lancer, monter des maisons d'édition quand un texte vous plaît.
On est éditeur par ailleurs, hein. Ça va faciliter un petit peu les choses.
on développera un peu cette maison d'édition. Et puisqu'on est dans les rencontres, et Manu, est-ce que tu peux nous expliquer aussi, toi, comment tu t'es retrouvé à découvrir ce texte ?
Ben, ce texte, c'est assez simple. Bernard fait des lectures dans le coin. Je suis un voisin aussi de Valais. Et en parallèle, moi, je suis bénévole dans une bibliothèque du village où j'habite. Donc, je suis toujours très intéressé par ce qui peut se faire autour des bouquins. Et donc voilà, j'y suis allé pour mon plaisir personnel, mais avec l'idée aussi de... Pourquoi pas inviter Bernard à la bibliothèque, ce qu'on va faire d'ailleurs dans quelques temps. Et voilà, puis moi je réfléchis toujours, tu le sais bien, sur l'idée de ramener des écrivains, des textes et des mots à la radio. Donc j'y suis allé avec une petite idée derrière la tête et c'est aussi pour ça qu'on est là.
Très bien. Et avant d'avoir cette lecture donc, d'une partie du texte, il y a eu pas mal de lectures publiques qui ont été organisées, je crois, autour de l'été dernier. Ça s'est même fini, il me semble, là, il n'y a pas longtemps. La dernière a été annoncée pour janvier ou décembre.
On en a une quasiment tous les mois, à peu près, oui, avec en moyenne entre 20 et 40 personnes. Et c'est à chaque fois une lecture différente, une émotion différente et des rencontres... assez étonnante. C'est on se balade de veillée en veillée, en fait.
C'est un exercice pas trop difficile, Bernard, de lire son texte ?
Difficile, non, mais pour aussi curieux que ça puisse paraître, alors que je l'ai écrit et que j'ai écrit des choses que j'ai vécues, il n'y a absolument rien de fiction dans ce que je vais vous lire. Je ne le sais pas par cœur. Je ne l'apprendrai pas par cœur. Il y a toujours, dans chaque lecture, un mot ou une phrase sur laquelle je bute, parce que, voilà, c'est...
Et c'est
jamais la même.
Ce texte, vous disiez là que vous étiez rencontré autour de ce bar associatif, de café associatif à Valrhoc. Donc ce texte, il a été écrit quand exactement ?
Oh, il a été écrit en plusieurs fois, avec des ajouts, avec des petits morceaux que j'avais proposés à des amis qui m'ont dit « mais il faut que tu continues, il faut que tu en fasses d'autres, etc. etc. » Donc il s'est étoffé au fil des années. J'ai dû commencer en 2015. Mais maintenant qu'il est imprimé, il me revient des tas de trucs.
C'est dur de s'arrêter à un moment donné.
Alors,
il faut savoir mettre le point final. Quoi.
Jusqu'à présent, je n'avais pas pris de notes. Mais maintenant, je note ce qui me revient, même si je ne le rédige pas, mais je note les images. Quoi.
Pour au col 2, du coup.
Sait-on jamais.
J'ai même l'impression qu'on est au début d'une histoire. Quoi.
On s'était dit qu'on... On se mettrait un peu de musique dans les oreilles, justement, pour prendre le rythme. Et comme ça, après, Bernard, justement, on te laissera le micro pour nous proposer une lecture d'une partie de ce livre au col. Voilà, donc on écoute un petit morceau de Une hanche passe. Ça s'appelle Scottish and Soda.
Thank you.
Nadine. Je ne suis pas Prévert, au génial inventaire, ni Pérec, dont le je me souviens reste dans les mémoires. Je suis le berger qui a passé quelques étés sur ce col qu'enfant je fréquentais déjà. Col où se croise le départemental numéro 19, anciennement chemin de Meyrueis à Saint-André-de-Valborgne, et la grande draille de Margeride. Et je sais qu'un col est un port, un passage, une ouverture. Et celui-ci plus que tout autre, puisque Salides est bien proche de l'espagnol salida, sortie. Je ne sais si l'étymologie est exacte, mais elle me convient. Du col, j'ai vu le soleil poindre par-delà les Alpes, puis, le lendemain, je n'ai pu voir d'un côté de la route l'autre, le brouillard du marin s'étant bloqué là. Au col, je sais que l'eau de la pluie ira se perdre pour moitié en Camargue et pour moitié en Gironde. Au col, un 8 juillet, j'ai vu venir de loin un homme, suivi de 2 ânes, de 3 chiens, de 6 chèvres et de 12 brebis, et puis d'un animal blanc à la démarche surprenante, qui était une oie. C'étaient là ses animaux de compagnie. Ils marchaient depuis les Pyrénées, depuis Bagnères de Bigorre, citoyens helvétiques en butte aux tracasseries administratives. Et j'y ai vu aussi un cavalier pieux montant un cheval pis, cheminant vers Lourdes, obéissant par là à quelques vœux secrets. Au col, j'ai vu, perdu si loin de ces oliviers andalous, la pie bleue. Au col, j'ai vu un matin toute une chorale venue des lointaines Allemagnes descendre d'un autobus et chanter Bach. Les violons étaient là eux aussi. Et puis un soir, j'ai entendu la maison bleue adossée à la colline et les corps approximatif de guitares improbables. Au col, j'ai vu une mer de genêts et un petit tracteur rouge les grignoter patiemment et finir par en venir à bout, ou presque. Avec eux, on ne sait jamais. Au col, j'ai vu une maison perdre son toit, puis ses murs, puis ses pierres elles-mêmes, pour disparaître tout à fait du paysage, du cadastre et bientôt des mémoires. Au col, j'ai vu à la fin août, sur le goudron de la route, des becs croisés des sapins et aussi, une fois, un pluvier guignard. Au col, j'ai vu planer, impeccable et implacable, l'aigle royal. Et certains soirs d'orage, j'y ai senti le sol trembler. Au col, j'ai vu un homme, qui devait plus tard devenir président de la République, hésiter à prendre le pain de la main qui le lui tendait, sans doute parce que cette main venait de porter un agneau nouveau-né et tout mouillé encore. Au col, j'ai vu des gens s'engueuler et même se battre, et d'autres faire l'amour dans la douceur du soir. Au col, j'ai trouvé des couteaux et des cuillères et des briquets, et des lampes et des clés ouvrant Dieu sait quelles portes, et des fers de bœufs et des fers de chevaux et des fers de souliers, quelques vis tamboires et même une bague de Havane estampillée Juan Lopez, et puis des tas de saloperies innommables. Et au col, j'ai vu à la Saint-Luc le ciel bleu de Palombe. Au col, j'ai vu l'Argiope dans ses travaux de haute lisse et les pères dans les siens. Au col, j'ai rencontré Rosalie. Elle est toute belle, grande, mince, élégante. Ses antennes sont immenses et ses élytres gris-bleus tachés de noir. Au col, j'ai vu se poser un très gros hélicoptère jaune et flambant neuf. Et j'ai vu l'admiration humble et joyeuse des pilotes pour les vautours qui tournaient en planant si haut au-dessus de leur tête. Au col, J'ai vu de la terreur dans les yeux du conducteur de camping-car venant de croiser Joachim, le grumier excessif et rigolard. Au col, j'ai vu des grands feux de broussailles et de ces genêts purgatifs qui brûlent en d'énormes vagues de flammes, formidables volutes orangées noyées de fumée noire, âcres et sifflantes, et aussi des tout petits feux de camp, timidement entretenus brindille après brindille, coincés entre deux pierres. Au col, j'ai vu naître et croître un merisier, protégé par l'épaisseur d'un roncier, et j'y ai vu mourir, battu par les vents, un formidable marronnier. Au col, j'ai vu s'effondrer la voûte de l'antique auberge et j'ai trouvé des morceaux de vieille porcelaine, des queues de poêlons de terre et des tessons épais de verre bleu. Et du col, j'ai vu par le dessus passer des avions militaires dans un rugissement d'apocalypse et d'autres très haut, encore éclairés par un soleil déjà disparu, qui laissaient dans le ciel leurs traces de limaces. Et j'ai vu aussi le Saint-Esprit du faucon Cresserel. Au col, des touristes cossus mais moroses m'ont demandé « Il faut longtemps pour aller loin ?»« Tout dépend de par où vous passerez », leur ai-je répondu. Au col, j'ai vu une ânesse semblant rouler comme un cerceau, nez au sol, oreilles plaquées sur l'encolure, dos rond, croupe avalée sous le ventre, et les quatre pieds se touchant presque, lancé à toute allure à la poursuite d'un chien. Et le chien savait que si les dents de cette furie l'attrapaient, les sabots feraient de lui une simple tache rouge sur le chemin. Il s'en fallut très peu. Au col, j'ai vu le troupeau de Massevac, et ceux de Fons, et celui du Majorau qui allait sur le Méjean, et ceux qui vont sur le Lozère aussi, tous filant droit par la draille, dans un grand tourbillon de poussière et une énorme symphonie de cloches. Au col, j'ai entendu le chant de l'ortolan, et celui de la caille, celui du pinson et celui du coucou, mais celui-là jamais après le juillet. Et parfois, en octobre, la voix sourde, profonde et grave du grand-duc, et puis aussi le chant des clarinettes et celui des hautbois. Au col, j'ai vu un héron tenter de changer de vallée, puis renoncer, pour cause de vent. Du col, j'ai vu Altaïr, Deneb et Vega, et le chemin de Saint-Jacques, et puis une fois, une seule fois, à l'aube, comme un éclair qui aurait un peu duré, le rayon vert. Au col, j'ai vu des chercheurs de champignons revenir avec, dans leur panier, le fer à repasser électrique trouvé au pied d'un hêtre au vomitant du bois. Au col, j'ai entendu François chanter les yeux noirs, et en russe s'il vous plaît, et Stéphane nous dire le bateau ivre in extenso, lui qui savait aussi des laits pour les reines, des hymnes d'esclaves aux murènes, les complaintes de mes années, et des chansons pour les sirènes. Au col, j'ai vu les vautours apparaître, petits points noirs aux confins du ciel. Je les ai vus, immenses, tourner puis atterrir pour s'entasser en une mêlée mouvante, énorme et vociférante, effrayante en tout cas, puis s'envoler lourdement, n'abandonnant au sol que quatre grandes plumes, quelques duvets et le squelette proprement décharné de la brebis morte la veille. Au col, le troupeau, en passant de bonne heure un matin d'août, entourait une petite tente bleue blottie entre les genêts. Réveillée au son des cloches, la dormeuse m'a, du bout des doigts, envoyé un baiser. Au col, j'ai vu le mâle d'Erésus Niger, à l'abdomen rouge vif, marqué de quatre points noirs, courir vers sa femelle, toute de velours noir bleuté, tapis sous quelque lauze. Et les bondrés cherchaient les ascendances pour s'en aller au loin, très loin, vers le sud-ouest, dès la fin août. Au col, un marcheur nous a désigné, le troupeau et moi, à ses compagnons, en disant « Voilà qui est authentique !» Et il a eu presque peur quand je l'ai invité à m'expliquer ce qu'il entendait exactement par là. Un autre m'a demandé si mon activité était d'une quelconque rentabilité. Et une petite fille du haut de ses 10 ans a voulu savoir pourquoi tu en as autant de moutons. Au col, j'ai vu une digitale pourpre dont les fleurs étaient blanches. Au col, un beau matin, le vent m'a jeté à terre. Au col, ou plus exactement un peu plus bas, tout près du rocher à cupules, au bord du talus d'où elle veillait sur le troupeau, sur le pâturage, sur la vallée, peut-être même sur le monde, en tout cas sur son monde, est enterrée Junon, la grande chienne montagne des Pyrénées. Truc et troll les labris, Thatcher la fox terrier, Eclipse la border collie repose eux aussi. Au col, j'ai vu les gens courir, marcher, manger, boire et dormir, et les enfants jouer et rire, ou bien alors pleurer. Du col, j'ai vu se lever les soleils trop rouges des veilles de trop grandes pluies. Au col, j'ai partagé les meilleurs cakes aux olives du monde. Au col, une brave dame, en juillet 2012, m'a demandé « C'est pas trop dur sans ta femme ?» Au col, le 15 août 2002, jour de la mort de Maria, très longtemps impérière et démodère, régente des lieux, une mouette rieuse s'est posée. Au col, souvent de fois, on m'a dit « Mais quand même, vous ne nous ennuyez pas ?» Au col, j'ai vu le soleil et le vent jouer avec la poussière. Au col, j'ai vu la vie.
La canzone Arrabbiata, jouée par le groupe Une Hanche Passe, toujours pour nous accompagner un peu en musique sur les hauteurs de ce col. Merci déjà beaucoup Bernard pour ta lecture d'une partie donc du texte que vous avez un petit peu caviardé avant l'arrivée en studio, parce qu'on s'est dit que c'était bien que les auditeurs, auditrices en aient encore à lire dans ce bouquin, donc qui s'appelle, je le rappelle, Au col, remembrance en clapasse. Donc remembrance en clapasse, bon écoutez, il y a les définitions aussi, vraiment, vous aimez bien les définitions en Suisse dans cette maison d'édition. Donc des souvenirs du clapasse, de ce col dont tu nous as parlé, où tu as vu beaucoup de choses, Ce col, déjà, est-ce qu'on peut en parler? Il est où? C'est le col du Salidès? Pour les Cévenols ou ceux qui randonnent, peut-être c'est évident, mais pour les autres?
Ben pour les autres, il est, comme je le dis au début, sur la ligne de partage des eaux entre la Méditerranée et l'Atlantique, tout en haut de la vallée Borgne.
Derrière les Gouales, un petit peu
tout
à
haut,
plein
tout
nord.
Tout en haut de la vallée du Tarnon, versant nord-est de les Gouales.
D'accord. Donc c'est un endroit où tu as passé beaucoup de temps, visiblement.
29 étés.
29 étés, donc c'était à chaque fois pendant les estives.
Et des étés qui commençaient en juin et qui se terminaient à la Toussaint. Donc des étés un peu à rallonge, en tout cas les 10 dernières années. Mais ce col, j'y passais avec le troupeau de Massevac quand j'étais avec Fernand Couder à Massevac. Et j'y passais en voiture avec mes parents avant. Enfin, c'est un lieu que j'ai toujours connu. Je ne me souviens pas de la première fois où j'y suis passé.
Donc on l'aura compris, avant d'être écrivain, tu as été berger. Et tu es toujours berger ?
Je n'ai plus de troupeau, j'ai plus de brebis du tout, j'ai quelques chèvres pour parce que une retraite agricole, c'est maigre.
Ouais.
Alors je suis autosuffisant en fromage et en viande de chevreau.
Tu es devenu berger donc assez jeune, c'est une envie qui est...
J'ai jamais fait autre chose.
T'as jamais fait autre chose de ta vie ?
J'ai toujours... Je gagnais ma vie en étant berger, oui, avec des brebis.
Manu, tu voulais...
Non, je voulais savoir si dans ta famille, il y avait des bergers aussi, des bergères.
Pas vraiment.
D'accord. Donc c'est quelque chose qui t'a intéressé dès ton plus jeune âge, visiblement.
Oui, je suis un peu tombé dedans quand j'étais petit, mais pas dans le cadre familial.
Et alors là, on l'a entendu dans les lignes que tu nous as lues. Ce col et cette station de berger, ça va être un endroit formidable pour voir passer du monde, apparemment. On imaginerait qu'on est tout seul quand on est en estive, mais visiblement, en fait, il se passe toujours quelque chose.
Mais oui, il suffit d'ouvrir les yeux. Et on voit passer un oiseau, un insecte, des gens, une auto... Un animal particulier, un nuage qui fait ressortir quelque chose qu'on n'avait pas vu de cette façon-là jusqu'à cet instant-là. Un lieu qu'on connaît par cœur parce qu'on y passe toujours à la même heure deviendra complètement différent si on y passe en début d'après-midi au lieu d'y passer en début de matinée. Il faut regarder ce qui se passe autour, quoi.
Moi, ce que j'ai aimé beaucoup à la lecture de ce texte aussi, c'est la manière dont le temps est décrit, ou pas, justement. On sent bien des périodes qui se chevauchent, des choses qui remontent peut-être à quelques décennies, des choses qui ont l'air toutes récentes. Enfin, j'imagine que les drones, en tout cas, j'espère que c'était il n'y a pas trop longtemps. Et de la même manière, du coup, on sent qu'il y a des gens qui passent, la vie qui passe, et qu'en même temps, ce lieu, lui, reste là. Je trouve ça assez beau, en fait, cette manière de juxtaposer tous ces souvenirs et ces descriptions pour en créer un espèce d'espace comme ça, un petit peu mythique, je trouve, où on a l'impression, comme dans un film en accéléré, que tout passe et pourtant tout reste.
Oui, comment dire ? C'est... Je pense que la remembrance en Clapas décrit exactement ce qui s'est passé. On aurait pu dire souvenir en vrac. Rédiger des souvenirs ne m'intéressait pas du tout. Mais par contre, prendre des petits morceaux un peu partout et puis essayer d'en faire quelque chose de cohérent, ça me convenait, quoi.
C'est un peu impressionniste, peut-être, comme style.
Oui, je ne sais pas.
J'ajouterais dans cette analogie que la forme des phrases est relativement simple. Il n'y a pas forcément trop d'enluminure, en tout cas. Les mots sont bien choisis, mais il y a une forme volontairement, j'imagine, un peu épurée. Et comme tu l'as dit au début, tout est vrai. Et en fait, du coup, vu que chaque ligne est vraie, en fait, elle n'a pas besoin d'en faire des caisses, quoi.
Exactement, même si, je suis quand même allé chercher des noms de bestioles un peu particulières.
Oui, il y a des rimes aussi. Je ne dis pas qu'il n'y a pas de travail.
Erésus Niger ou Ephipiger, bon, c'est des bestioles ou des mots qu'on croise pas tous les jours dans l'escalier. Mais bon, voilà.
Enfin, quand on est naturaliste.
Pour les naturalistes, oui, j'imagine que ça parle peut-être plus. Mais c'est bien aussi, quand on ne connaît pas, on s'imagine des choses. Des fois, tu nous emmènes volontairement sur des petites fausses pistes, là, avec cette... comment elle s'appelle, la demoiselle c'est pas José.
Rosalie.
Voilà.
Rosalie.
Des fois, on ne sait pas si on va parler d'un humain ou de...
D'une voiture.
Oui, mais c'était un peu le but aussi, quoi.
Ouais. Et j'avais une deuxième... question, enfin peut-être envie de te demander ton avis. J'ai écouté par ailleurs aussi un entretien d'ailleurs auquel je renvoie nos auditeurs sur le site sonaille.net dans lequel tu as été interviewé longuement. Donc on peut en savoir aussi beaucoup sur ta vie de berger, les moutons, etc. Pas mal de choses. Et un petit passage justement qui m'a plu, c'est quand la personne qui t'interviewe te demande
Lionel Dieu,
citons-le, te demande ce que ça te fait d'être pris pour objet par des ethnologues. Et ça me renvoie aux quelques passages du livre où les gens viennent te voir. Alors, ceux qui trouvent ça authentique, ceux qui trouvent ça complètement absurde. Et il y a effectivement cette scène dans l'imaginaire, le berger, cette espèce de philosophe là, qui nous contemple du haut de sa montagne. Comment est-ce que tu t'amuses de cette image ou pas? Est-ce que tu trouves que tu t'y reconnais un peu finalement aussi?
Oui, c'est vrai que être l'objet d'études, c'est un sentiment assez particulier.
Ce berger là qui a beaucoup de curiosité, je crois, et de fantasmes.
Finalement une telle méconnaissance. On est tellement sur des images d'Épinal, quoi. Et effectivement, moi j'ai toujours dit qu'un bon berger était un berger assis. Bon, mais bien souvent, quand on voit un type assis avec un troupeau, on se dit il fout rien. Mais justement, si, il fait. Et parce que s'il n'était pas assis là, de cette façon-là, à ce moment-là, le troupeau irait pas bien. Mais ça, c'est quelque chose qui est difficile à faire comprendre.
Puis il y a les chiens auxquels tu fais une référence aussi, d'ailleurs, ouais. Les chiens qui t'ont accompagné, j'imagine, hein, sur pas mal d'estives.
Moi, j'ai retenu le fox terrier, là, qui s'appelait Thatcher. Sympa, comme chien.
C'était comme un fox terrier.
Agressif,
comme,
non?
Comme Thatcher.
Hargneux.
Ah, mais pour faire une petite parenthèse, en sortant de justement cette imagerie du philosophe, j'avais reçu ici en studio aussi des jeunes bergères qui montaient l'antenne Cévenol du syndicat des gardiens de troupeaux. Et effectivement, les conditions de travail ne sont pas toujours aptes et propices à la philosophie. Il y a aussi une dureté du métier, une certaine précarité pour en tout cas une autre forme peut-être, j'imagine, d'élevage. Que celui dans lequel tu as pu te...
Ou une autre forme de philosophie.
Peut-être
quand
aussi.
On a été confronté suffisamment longtemps à des conditions rudes, parce que le métier de berger, finalement, est rude.
Oui, il ne fait pas toujours beau au sommet du col, j'imagine.
D'autant plus que maintenant, on se fait bouffer par les loups, et ça aggrave encore la charge de travail, ce qu'on appelle charge mentale. Ça devient extrêmement difficile d'assumer tout ça, quoi. Voilà.
Au col, vous étiez nombreux pendant ces étés-là, là, où tu étais toi le seul berger? Il y avait d'autres bergers avec toi à ce moment-là?
Alors pendant très longtemps, j'étais tout seul. En fait, j'étais pas tout seul du tout, parce que s'il n'y avait pas eu Nadine, j'aurais pas pu vivre comme je l'ai fait ces étés-là. Heureusement qu'elle était là, sinon je serais peut-être mort de faim. Et sale, en plus. Bref. Après, j'ai eu un des éleveurs qui était à la retraite, qui venait assez régulièrement. Et puis, j'ai eu des stagiaires, puis j'ai eu des aides-bergers. Bon, voilà, donc j'étais souvent seul, mais pas toujours. Et puis j'étais toujours très content quand j'avais du monde, et j'étais aussi très content quand j'étais seul.
Et pour revenir à la littérature et aux mots qui décrivent les choses, ça c'est quelque chose qui t'a toujours porté un petit peu à avoir envie de... quand tu es là-haut, tu avais déjà des mots en tête.
Et des bouquins en poche.
Et des bouquins en poche, ouais, c'est un bon moment pour lire.
Ça c'est... heureusement, quoi. Heureusement.
Et donc là c'est ton premier livre édité, mais il y a eu des textes écrits avant ?
Il y en a eu, oui, pas grand-chose. Mais en particulier, j'avais rédigé une comptine, « Promenons-nous dans les bois pendant que le loup n'y est pas », au début du... Enfin, ça fait déjà une bonne dizaine d'années, quand on a commencé à parler sérieusement de la réapparition du loup. Et j'en avais fait plusieurs lectures avec un chercheur de l'INRA, qui est spécialisé dans les relations hommes-prédateurs. Donc avec Michel Meret, moi, on a fait plusieurs lectures, dont une à Valrog, moi avec ma comptine, et lui avec ses tableaux, ses progressions, ses, voilà, son travail de chercheur INRA.
Mmh. Et ben alors on va pouvoir justement aborder la partie de l'édition, comment ça s'est passé le travail avec donc Olivier et Annie qui sont là avec nous, qui t'ont proposé donc d'éditer ce texte. Comment ça se passe? Le texte est fini, tu l'envoies et puis c'est eux qui bossent, ou justement vous le retravaillez ensemble? Parce que on peut savoir un peu la petite tambouille et pour avoir cet objet fini, parce qu'effectivement tu dis les souvenirs continuent d'arriver, une phrase on peut toujours la retravailler. À quel moment est-ce qu'on s'arrête, par exemple?
Ben on s'est arrêté quand ça c'est eux qui le diront. Mais ce que je veux dire et qui est important pour moi, c'est que ils n'ont pas changé une virgule de ce que j'avais proposé. Voilà. Il y a eu de leur part un respect total de ce que j'avais écrit. C'est voilà.
Bernard, j'ai une question sur le choix du français, parce que j'imagine que tu parles couramment occitan, et t'as toujours les mots te sont venus en français et en occitan, ou plus français qu'occitan, ou peu importe d'ailleurs. Mais...
Alors ça a été pensé, écrit, tout fabriqué en français. J'ai quelques 3 petits textes de rien du tout que j'ai rédigés en occitan, que j'ai essayé de traduire en français. Je ne suis pas du tout content de ma traduction. Par contre, ce texte-là, au col, vient d'être traduit en oc, pas par moi, par des amis qui le maîtrisent à la perfection. Et on va voir qu'est-ce qu'on en fait.
Ah, super. Futur... Le deuxième livre des éditions Opistographe et Atrapens.
On est en train de réfléchir à faire des livres en bilingue, effectivement, en français-occitan. Donc, ouais. On est en train de travailler là-dessus.
Est-ce qu'on peut revenir alors sur le travail d'un éditeur, des éditeurs, par exemple, là, dans cet exemple qu'on a? Un texte vous plaît, vous avez l'auteur pas loin sous la main. Comment est-ce que ça se met en place après?
Là, je laisse la parole à Olivier, parce que c'est beaucoup lui qui a travaillé avec Bernard.
Bah, il faut avant tout établir la confiance. Et après, c'est surtout échanger, dialoguer. Voilà, je pense que c'est essentiellement ça. Et puis avoir aussi quand même... déjà, la première chose, c'est de travailler sur un texte qui nous plaît. Et c'est l'objectif premier de cette petite maison d'édition, c'est de ne publier que ce qui nous plaît vraiment. Parce que par ailleurs, on a publié plein de choses. Mais en tant que salarié de grosses maisons d'édition, donc c'est pas du tout la même chose. Là, c'est vraiment pour se faire plaisir.
Et du coup, j'ai une question. C'est, si j'ai bien compris, c'est à l'écoute de ce texte que vous avez décidé de monter cette maison d'édition.
C'est-à-dire, c'est un... c'est un projet qui nous tient depuis très 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 longtemps. Et on n'avait pas le temps parce que quand même on avait une activité professionnelle chacun assez dense. Et puis là, en fait, on s'est dit à un moment, si on le fait pas maintenant, on le fera jamais. Donc on s'est lancé, on a même accéléré un petit peu parce que justement il y avait ces projets de lecture pendant l'été. Alors on s'est dit là, si on ne sort pas avant l'été,
On va avoir un support quoi.
Voilà. Et ça c'est la chance qu'on a en plus, c'est que non seulement Bernard écrit, mais en plus il lit. Ce qui est pas mal quand même. Et ça nous a... Non, mais en plus, on a vachement de chance, parce que parfois, on peut sortir un bouquin, et puis après, pour arriver à le faire connaître, le diffuser, c'est pas évident. Là, il fait les deux, quoi. C'est bien.
Non, mais c'est vrai que la lecture, c'est un exercice qui est parfois difficile.
Oui, tout à fait. Oui.
C'est peut-être le moment de dire que ce livre est d'ailleurs disponible dans toute la vallée, les vallées du coin, chez pas mal de petits commerces du coin.
On peut le commander sur notre site ou chez n'importe quel libraire. Maintenant, on est accessible dans toutes les librairies de France et de Navarre.
Voilà, donc c'est le site des éditeurs, c'est adog-éditeur@.com. Le livre coûte 12 euros, c'est pas cher du tout. Et vu que c'est la première fois que vous aviez une totale liberté, même sur le format final de l'objet, il y a un soin, on le voit bien, apporté au grain du papier. Faut tout choisir, la typo, la taille, la mise en page.
On a beaucoup discuté là-dessus. On a une graphiste qui nous a aidés, qui s'appelle Lynn Cello, qui est une graphiste avec qui moi je travaille très régulièrement, qui fait plutôt des livres de beaux-arts et qui a travaillé amicalement pour nous, il faut le dire. Elle a fait un super boulot et Olivier et moi, très sensibles au papier. Donc, on a pris un papier qui est de la marque Fredrigoni, qui est un très grand papier italien. Et on a voulu, entre guillemets, c'est pas parce que c'est une édition locale que nous n'avons pas de très hautes exigences. Et on a voulu aussi que l'objet, nous, on le trouve joli. Voilà. On a fait livrer la couverture à plat pour que ça coûte moins cher. Et nous plions nous-mêmes la couverture. Donc, comme on dit, Olivier et moi, nous avons réintroduit la proto-industrie dans les Cévennes, c'est-à-dire qu'il a moitié fait à la main le long soir d'hiver. Et il est imprimé localement à Saint-Martin-Longe, chez Impact Imprimerie. Donc ça nous semblait important aussi, écrit, édité et imprimé dans la région. Et on a passé beaucoup de temps aussi, on dit toujours en rigolant que notre métier est réussi quand on ne le voit pas. Donc on passe beaucoup de temps, et Olivier surtout a passé beaucoup de temps à mettre en page le texte pour que la lecture soit extrêmement fluide. Et si vous ne voyez pas notre travail, c'est qu'on a, je l'espère, réussi un tout petit peu notre travail.
Oui, on sent l'amour du métier, typographie, d'imprimerie, ces choses-là, qui sont, je ne sais pas où on en est, mais il y a encore des gens qui continuent à passer aussi ce flambeau, sa typographie, le choix de tout ça. Je vais quand même lire pour nos auditeurs, deux définitions, comme ça on en apprendra un petit peu, parce qu'il y a pas mal de nouveaux mots quand même dans ce livre.
Il y a
du vocabulaire.
De vieux mots.
Mais vu que c'est le nom de vos éditions, opistographe, figurez-vous que c'est une forme d'impression. Donc quand un livre est imprimé sur le recto et le verso. Donc ce qui est assez courant aujourd'hui, mais sachez-le, vous lisez des livres opistographes, au contraire des livres anopistographes. Et enfin, une attrapance, puisque c'est le deuxième mot de vos éditions, c'est justement une vive dispute entre deux ouvriers typographes. Alors, est-ce qu'il y a eu des attrapances sur ce projet ?
Il y en a sans arrêt, notre vie n'est faite que d'attrapances positives. Vas-y, Olivier.
Voilà. Oui, non, c'est pas les typographes, mais les éditeurs aussi.
Et ces mots viennent d'un livre qui est dans la bibliothèque d'Olivier, qui s'appelle « Chier dans le cassotin », c'est ça ?
Le cassotin aux apostrophes.
Aux apostrophes, voilà. Et c'est tout le vocabulaire ancien et actuel des ouvriers typographes et imprimeurs. Et c'est un livre absolument merveilleux, avec des mots absolument merveilleux que nous souhaitons réhabiliter ici.
Très bien.
Est-ce qu'il y a un nombre d'exemplaires qui ont été tirés, on peut savoir ?
On a fait un premier tirage à 500 exemplaires et nous avons retiré 500 exemplaires.
Donc c'est un livre qui cartonne, quoi.
C'est un carton, et notre objectif n'était pas de gagner de l'argent sur ce type de projet, mais en tout cas de ne pas en perdre. Et donc nous n'avons pas perdu d'argent, ce qui va nous permettre d'en faire d'autres derrière. Voilà. C'est trouver aussi une économie viable pour faire des contrats aux auteurs, pour Et puis pour continuer à publier les livres qui nous plaisent et qui, nous l'espérons, plairont à d'autres gens.
Et quand on, justement, quand on fait un projet comme ça de A à Z, à part le texte, ça met combien de temps environ? Sans, si on enlève le temps des attrapances, je ne sais pas si, combien de temps ça...
Non, ça mais peut... les attrapances, on ne peut pas les compter parce que c'est, oui, c'est tout le temps. Quoi, donc c'est pas,
mais sinon, voilà, à peu près qu'on se rend...
Mais là, c'est difficile à évaluer parce qu'en en fait, entre le moment où on a eu le texte la première fois et la sortie, je ne sais pas, il s'est passé quand même plusieurs mois. Et après, pour travailler vraiment le texte, bon, après, il faut, quoi, on a mis 3-4 mois.
En production, 3-4 mois,
voilà,
oui.
C'est
oui.
Ça. Mais voilà, parce qu'on fait ça aussi tranquillement et parallèlement, on a à autre chose aussi.
Ouais.
Parce que Bernard, il avait aussi ses fromages à faire. Mmh. Moi, j'avais...
Moi, quelques livres, d'autres livres à faire par
d'autres
ailleurs.
Livres, mais voilà.
Oui, il y avait... Et donc, pas une virgule n'a été touchée au texte de Bernard.
Bah, il n'y avait pas besoin, parce que ça ne veut pas dire qu'on se prive tout
ça
le temps.
Ça peut faire partie du boulot d'un éditeur,
bien sûr,
normalement,
bien sûr,
de,
même,
de suggérer...
Même parfois de réécrire, pour ne pas dire écrire. J'ai connu des auteurs qui finissaient pas leurs phrases et puis qui disaient, vous voyez ce que je veux dire, allez-y. Bon, bref. Non, là, ce n'était pas nécessaire. Donc, voilà. La seule chose qui a été nécessaire, c'est de... Mais comme vous avez peut-être rendu compte, c'est que, à part peut-être quelques... Moi, j'appelle ça des fragments. Hein, mais qui ne pouvaient pas bouger au début de l'ouvrage et à la fin, mais sinon, à l'intérieur...
Oui, le choix de l'ordre peut être un peu...
Voilà, mais ça m'a permis surtout, ben, justement, de pouvoir bien caler les pages, voilà, qu'il n'y ait pas trop de blanc, trop, voilà, c'était... Donc là aussi, il nous a facilité le boulot, quoi, c'était...
Non, puis on a travaillé aussi, je travaille avec cette personne assez souvent, qui s'appelle Jean-Claude Bailleul, qui est un relecteur typographe, qui a un métier essentiel dans nos métiers. Nous, on est éditeur, mais on n'est pas relecteur. Et quand vous découvrirez le livre, il y a beaucoup de noms de plantes, d'animaux, et donc voir où est-ce qu'on met des majuscules, la borne d'orthographe, enfin voilà, qu'il n'y ait pas de faute. Et donc, on a évidemment pris aussi un professionnel pour nous accompagner pour la relecture typographique de l'ouvrage, qui fait que là aussi, on l'espère, la lecture est fluide.
Et alors, est-ce que c'est de la poésie, ce qu'on vient de lire? Je n'ai pas posé la question. Moi, je l'ai vécu comme ça, mais je ne sais pas si c'est un mot dont on a envie de s'emparer ou pas. Bernard, comment est-ce que toi, tu décris ton texte?
Non, moi, je...
C'est de la chanson, presque?
Non,
en prose.
C'est ni de la chanson, ni de la poésie, c'est...
C'est du grelier.
Voilà, c'est ce que c'est ça. C'est
J'ai une libraire quand même qui m'a dit c'est étrange, je n'aime pas la poésie, mais j'aime bien ce texte. Donc tu en fais ce que tu veux.
Bah voilà. Alors ça peut faire une réponse. De...
C'est peut-être pas de la poésie.
Bah, écoutez, merci beaucoup à tous les quatre, en tout cas pour ce moment de discussion et de poésie, on n'a qu'à le dire. Hein. Si c'est pour un moment, je pense que ça passe. Pour cette lecture aussi, et donc l'intégralité du texte est disponible sous format papier, très beau papier, un livre. Et la couleur, j'ai oublié de vous demander quelle est la couleur de cette couverture.
Alors c'est du papier Materica Rosso.
Voilà. Rosso, voilà.
Oui, chez Fredrigoni.
Un peu de tuile.
Il y a plein d'autres, c'est ce qu'on appelle du papier teinté masse, il y a plein d'autres couleurs pour les prochains livres, dont sans doute un prochain livre de Bernard. Rendez-vous avant l'été pour d'autres projets sans doute.
Et est-ce qu'il y a des lectures qui sont prévues ici ou là, peut-être?
Oui. Je sais pas.
Bernard sort son agenda.
Oui. Ah, visiblement, un agenda de ministre.
Oui, exactement.
Qui gère ça, au mois de mars, je crois.
Oui.
J'avais trouvé les dates passées sur votre site.
On met à jour notre site systématiquement. Dès qu'il y a une lecture, on met à jour notre site.
Je rappelle donc adog-editeur.com au pluriel. Oui.
Et on est ouvert à toute autre proposition de lecture si des gens ont envie de venir écouter Bernard.
Le dimanche 8 mars, hommage après Alès. Et il y en a une autre le 20 mars à Mostuéjouls.
Il trouve toujours des endroits.
Mostuéjouls, c'est dans la vallée, c'est dans les gorges du Tarn, mais en aval du Rosier, entre le Rosier et Millau.
Très bien.
Et le 8, c'est à Hommage.
Et au printemps, sans doute, à Notre-Dame de la Rouvière.
Oui, voilà, c'est ça. Mais ça, on va...
Ça sera annoncé en temps et en heure.
Oui, oui.
Quand il fera beau.
Dans les agendas culturels de Radio Escapade. Merci encore à tous les quatre, Bernard, Annie, Olivier et Manu.
Merci à toi, Antoine.
Et puis, on se retrouve très vite, du coup.